Il est en studio, mesdames et messieurs. 15h04, vous êtes dans le retour de Boulevard 102. Je m'appelle Audrey Pinchon, en passant Véronique Bergeron qui est autour de la table, Antonine Yacarini également. C'est l'équipe en place pour cette semaine. Et c'est Sam Tremblay-Michaud qui se joint à la discussion. Je vous ai dit qu'on ne perdait pas nos bonnes habitudes dans le retour. Ben voilà, Sam est chroniqueur automobile chez RPM, entre autres. J'ai envie de dire à son compte aussi, parce qu'il y a quand même une page Facebook. Là.
Oui, oui.
C'est sérieux.
Mais c'est principalement RPM quand même.
Hein, maintenant, oui, on va dire les vraies affaires. Là. Ça a commencé sur Facebook et maintenant, il est journaliste automobile.
Voilà.
C'est du sérieux. On a un beau tour quand même, Sam, d'actualité automobile à faire. Puis j'avais envie qu'on commence par ce qui retient notre attention tout court aujourd'hui dans l'actualité, c'est-à-dire le champion du Wheelie sur Laurentienne, la conduite dangereuse. Je voyais passer encore aujourd'hui, tu sais, les bilans routiers, c'est sorti à mi-juin, me semble, pour l'année dernière. Là, on a les deux semaines de la construction qui s'en viennent. L'année passée, 35 personnes tuées sur les routes pendant ces semaines-là.
Donc, on a dans les semaines considérées comme étant les plus meurtrières, tu sais, à partir de la Saint-Jean jusqu'à justement la fin des vacances de la construction. Là.
Qu'est-ce qu'on comprend pas?
Je sais pas si c'est ce qu'on comprend pas ou ce qu'on n'a plus le droit de faire non plus sur la route. Hein, tu sais, y a eu des changements avec les pistes de course. Moi, je pense à ça en premier lieu. Moi, je pense beaucoup aux pistes d'accélération, aux pistes de course.
Qui permettaient aux gens qui aiment ça d'aller se défouler.
Oui, c'est pas parfait. Tu sais, justement, il y a eu un incident là, sur la piste de Sanner, pas plus tard que quelques jours, là, exactement. Ouais. Quelqu'un qui a décédé sur une piste d'accélération, là, lors d'une épreuve d'accélération, le véhicule un bris mécanique, du moins on semble voir ça sur la vidéo, capoté, il y a quelqu'un qui est décédé, donc c'est pas drôle non plus, mais j'ai l'impression qu'on a de moins en moins d'endroits où on peut relâcher de la pression un peu, prendre du temps pour s'exciter avec nos machines. T'sais, on achète des véhicules qui sont à l'image de notre personnalité souvent. Il y a des machines qui sont sur le marché qui sont très extrêmes, des machines qui sont faites pour être conduites, qui donnent envie. Là, t'sais, de...
Il y en a qui aiment la performance,
qui aiment la performance. Et puis, t'sais, c'est drôle parce que la semaine dernière, pour la première fois de ma vie avec mon auto personnel sur la piste Tremblant, au Mont-Tremblant. J'ai payé une session de course pendant une journée complète. Mais t'sais, encore là, c'est très niché, c'est très dispendieux, ça coûte
très cher. Il
n'y
a pas de règles quand tu es là-dedans.
Il y a des règles au fond, au contraire, il faut que tu aies un véhicule qui est inspecté, il y a plein de réglementations. Moi, j'étais dans la catégorie des novices, comme c'était la première fois que j'allais faire de la piste là-bas. Donc, il y avait des zones de dépassement préétablies, mais c'est au contraire extrêmement bien encadré. Et je pense que ça, c'est quelque chose que tous les passionnés de voitures, les gens qui ont envie de vivre de vitesse et d'avoir du plaisir, devraient pouvoir faire dans leur vie. Le problème, c'est que c'est pas accessible pour tout le monde. C'est quelque chose qui est encore très niché. On a des pistes un peu autour ici. Je pense à Montmagny, qui donne la possibilité d'aller se promener un peu sur un sentier qui est sécurisé, dans un endroit sécuritaire. Mais j'ai l'impression qu'on a de moins en moins d'endroits pour relâcher de la vapeur, justement.
Est là, mon
c'est
bémol.
Ça qui crée des conduites dangereuses ou des gens qui s'excitent un peu trop sur les routes publiques. C'est pas la bonne place pour le faire.
Je suis d'accord avec toi, mais exactement. Moi, ce qui m'énerve, c'est pense donc à l'autre deux secondes. T'sais, je comprends que toi, tu as du fun, mettons, à 2h du matin, à 200 km/h, là. Mais s'il arrive quelqu'un, tu comprends, pendant que toi, tu passes à rouge aussi... C'est dangereux pour la vie d'autrui. Puis moi, il est là, mon enjeu.
Non, c'est inacceptable. On peut pas se dire qu'il faut qu'on accepte ce genre de comportement-là. T'sais, là, on parlait des statistiques de décès sur la route aussi. Combien d'accidents arrivent à l'été parce que les gens sont simplement distraits aussi. Ouais. Hein, on parle beaucoup de la vitesse. C'est pas toujours la cause principale des accidents. Des gens qui sont trop fatigués au volant, des gens qui sont distraits, les téléphones au volant.
La tempête parfaite.
La tempête parfaite. Les gens aussi qui circulent avec des convois dans lesquels ils ne sont pas à l'aise de piloter. Oui. On voit ça aussi, des gens qui partent en camping avec des remorques en arrière, des affaires de 24 pieds, c'est long, on sait pas trop qu'est-ce qu'on
des
fait.
Des trailers.
Des trailers mal chargés, des poids
mal...
T'as un
jour de déménagement, là.
Mais écoute, j'ai...
des voitures où tu vois rien à l'arrière.
Non, mais 100%.
Parce que, tu sais, au lieu de te payer un toolé, tu vas pacter le plus possible le hatchback de ton véhicule. Puis à ce moment-là, tu vois pas qu'est-ce qu'il y a en arrière de toi. Tu n'es pas en mesure de réagir.
Quand on a un véhicule qui est chargé aussi, de faire le petit coup vite. On est sur une rue passante, on veut tourner à gauche, puis on veut aller sur une autre rue. Là, puis là, ben, c'est une rue où c'est, c'est un boulevard, là, les voitures circulent vite. Puis on se dit, OK, je vais faire un petit coup vite. Mais là, votre véhicule, il est surchargé. Il ne va pas réagir de la même manière. Il ne va pas accélérer de la même manière. On ne va pas avoir les mêmes réflexes non plus lorsqu'on va accélérer. Mais non, mais j'avance donc bien pas présentement. Puis tellement que le coup vite, là, c'est lui qui fait un T-bone, puis c'est ça qui est pas drôle.
C'est hier matin, en traversant vers Lévis, quelqu'un qui a clairement pas l'air habitué d'avoir un trailer avec lui pensait qu'il pouvait changer de voie comme il change de voie quand il y a juste son petit véhicule normal.
C'est ça.
C'est plate, là, mais du moment où tu n'es plus dans le même véhicule que d'habitude, puis ça inclut justement si tu traînes de quoi, tu peux pas prendre de chance. Tu peux pas faire ça dernière minute. Ton angle mort, faut que tu le valides 1000 fois parce que tu vas mettre du monde à risque.
On parle des distractions, mais j'ai l'impression que nous autres aussi, puis notre impatience, là.
Beaucoup.
Tu sais, ça, on le dira jamais assez. Puis je sais pas si c'est vraiment en augmentation ou c'est qu'on en parle plus ou si ça a toujours été de même, mais maudit que le monde est impatient.
Ben oui.
C'est capoté. Puis on dirait qu'il y a des messages qui se passent par les mots dangereux, ces routes. Je vais te couper, je vais te coller dans le derrière, je vais te freiner dans la face si t'es trop proche de moi.
Tu vas apprendre.
Oui, c'est ça, tu vas apprendre à prendre quoi?
Pas plus tard que tantôt sur Capital, je voyais une voiture qui s'est tassée en mettant son clignotant, mais c'était serré un peu, mettons. C'était se déplacer dans la voie de droite de manière un peu à couper l'autre personne à l'arrière. Mais c'était pas dangereux, là, c'était juste un peu... raide comme manœuvre, je vais dire ça de même.
Parce que le clignotant, tu peux le mettre en avant, c'est donner une intention.
C'est ça.
Ils sont pas en même temps, là.
J'avais déjà écrit un article là-dessus pour dire que ce n'est pas un droit de passage obligatoire, le clignotant, c'est juste un avertisseur. Mais bref, la personne avait quand même fait un effort pour essayer de dire « OK, je me suis trompé dans ma sortie, je vais tourner rapidement. » L'autre personne en arrière a pogné les nerfs, les hautes allumées, le klaxon, on accélère.
Les masses en l'air.
On se colle au pare-choc à l'arrière, on se mène à l'accotement quasiment. Puis là, la personne, les deux bras dingues dans son véhicule. Puis là, parce que moi, j'étais à côté de ça, là. T'sais, moi, je même pas un pied dans cette patente-là, puis je suis nerveux. Là,
ah, mais c'est
ça! Ça klaxonne, ça capote, là, il va-tu quelqu'un qui va se rentrer dedans?
Ça entraîne des réactions chez les autres aussi.
Il y a beaucoup de facteurs dans ça. Puis, tu sais, je pense qu'il faut, il faut juste se rappeler une chose, c'est que vous soyez passionné de la vitesse, vous soyez passionné de camping, vous soyez passionné d'aller faire des road trips avec votre famille. On a une route, on a un chemin public. Il y a des lois qui l'encadrent. Je suis le premier à vouloir m'amuser avec mon véhicule puis aller avoir du fun, mais il faut que je me paye des sorties sur la piste parce que c'est pas possible de le faire sur la route publique. Puis c'est de même que ça marche. Puis je pense qu'il faut qu'on comprenne le fameux partage de la route, c'est ça pareil. Mm-hmm. Ça fait partie de la game. C'est plate des fois. Je suis le premier à dire, semble que ça serait le fun de pouvoir rouler plus vite. J'aimerais ça monter la limite de vitesse.
Je rêve que ces autoroutes ce soit à 120, mais tu puisses pas à la 121. 121, t'as une contravention.
C'est ça,
mais tu sais, soyez clair sur les limites de vitesse.
Mais c'est un privilège pouvoir conduire.
Oui, 100%.
Il n'y a rien de mieux que d'arriver à destination paisible, bien, pas se sentir mal, pas sentir qu'on a fait des actions qui n'étaient pas correctes sur la route. Tu sais, qu'on arrive quelque part puis on s'en zen, là, mais ça vaut bien plus la peine que de rouler une vitesse de malade ou de faire des comportements dangereux.
Définitivement. Sam, avant qu'on passe aux autres sujets, je m'en doutais, il y a toujours des questions quand tu passes en studio.
Bien sûr.
Que les gens se les notent puis attendent que tu t'en viennes nous voir. Question pour M. Tremblay-Michaud. J'ai une Mazda 3 hatchback 2025, modèle de base. C'est-tu normal que ça boit du gaz comme un vaisseau spatial qui combat la gravité pour décoller?
C'est quand même un véhicule réputé pour consommer. Je ne sais pas s'il est quatre roues motrices ou non. Si c'est un de bord, j'imagine qu'il est traction, donc non, il ne l'est pas. Transmission automatique, hein, qui commence à dater aussi 6 vitesses en 2026, ce n'est pas beaucoup. Puis le 2.5 a un bon couple de moteurs, mais ça boit vraiment plus que ses concurrents. Si on regarde une Toyota Corolla, Hyundai, Elantra, ces choses-là, ça, c'est des véhicules qui sont très économiques à la pompe. Mais un Mazda 3, ça boit plus, effectivement. Si vous êtes à 12 litres au 100 et vous faites que de la ville, j'irais peut-être voir votre concessionnaire, mais si vous êtes autour de 9-10 litres au 100, ça peut faire malheureusement du sens pour un véhicule comme ça, qui date maintenant. C'est ça son problème.
Là, l'autre question, il va falloir que tu me décortiques ça puis tu nous expliques ça pour la majorité des gens, là, parce qu'honnêtement, j'y vais, je me lance, OK? Est-ce que les ingénieurs de Kia et Hyundai ont réussi à enfin isoler à 100% le problème du ICCU qui pop sur la plateforme EGMF en architecture?
EGMP, oui.
Ça, 800 volts.
Oui, mais et puis...
Quand je l'ai vu apparaître dans la boîte, je suis très contente que ce soit toi qui te sois risqué à la poser.
Mais je veux juste dire que la question est très bien posé, hein. Il n'y a pas de faute là-dedans. C'est
en
bien,
français, mettons.
C'est,
là.
Ben, dans le fond, c'est pas compliqué. Puis on en a déjà parlé ensemble aussi. La fameuse plateforme des véhicules électriques chez Hyundai à 800 volts, une plateforme qui est très performante dans sa recharge, dans son autonomie. Les véhicules comme la Hyundai Ioniq 5, Hyundai Ioniq 9, on a le Kia EV9, Kia EV6. On a des véhicules qui sont bien populaires au Québec qui sont sur cette plateforme-là. Et on a un problème avec le système de ICCU. C'est un système qui est un peu le cerveau de recharge du véhicule, si vous voulez. C'est lui qui décide de dire, lorsqu'on connecte le véhicule avec une borne de recharge, où l'énergie va aller. Est-ce que je recharge la grosse batterie qui s'occupe de donner de l'autonomie, donc la batterie d'autonomie, ou la batterie 12 volts qui, elle, qui s'occupe des accessoires dans le véhicule,
charger
comme les écrans, ces choses-là. Et là, ben, il y a un malfonctionnement qui se fait avec cette pièce-là qui crée des problèmes où on ne recharge plus jamais la batterie 12 volts et le véhicule ne peut pas fonctionner sans cette batterie-là. Donc là, il va y avoir des codes d'erreur, on demande d'immobiliser le véhicule. Ça a été un problème connu maintenant, puis même nous, chez RPM, on a décidé de remettre ces véhicules-là en évaluation le temps que Hyundai et Kia trouvent des solutions. Donc pour répondre à la question, c'est est-ce qu'on a maintenant une solution? Ce que je peux vous donner comme nouvelle, c'est qu'on a changé le numéro de la pièce. Ça reste le même type de ICCU. J'ai l'impression que Hyundai et Kia travaillent avec un autre fournisseur de pièces. Est-ce que cette nouvelle pièce-là règle tous les problèmes? à voir et à suivre.
C'est comme les commissions scolaires, ça, là, un changement de nom qui ne donne pas grand-chose.
Ben non, mais c'est sûr que je ne sais pas encore. Ça, okay. Ça sera à valider. Chose certaine, c'est que les constructeurs, dont Hyundai surtout, c'est engagé à réparer pendant de nombreuses années, voire jusqu'à 10 ans, les pièces sur votre véhicule. Bon. Donc, on a extensionné les garanties sur cette pièce-là. Si vous êtes propriétaire actuellement d'un véhicule Hyundai ou Kia sur une architecture à 800 volts, vous allez avoir du service, là. On va s'occuper de vous pour la réparation de votre produit. Et j'imagine qu'on est à la recherche d'une solution durable. Malheureusement, on ne semble pas encore l'avoir. Là, j'entends moins parler du problème parce que ça arrive toujours dans les périodes de froid. Mm-hmm. Quand l'hiver commence à arriver, c'est là qu'on entend les propriétaires dire « Hey, mon ICCU est brisé. » Je connais des gens qui en ont changé 2, 3, 4 fois dans leur véhicule la même pièce. Oui, oui, c'est comment cette problématique.
Je termine avec une autre question d'auditeur, simplement parce que ça va nous mener vers le prochain sujet. Il y a un article sur le rpmweb.ca que je trouve super intéressant concernant les véhicules d'occasion. Vous avez fait un article sur les trucs pour ne pas acheter le trouble des autres, ouais. Ce que je trouve très intéressant. Ouais. Et la question, dans l'usager 2020 environ, quelle voiture tu me conseilles pour faire du Uber, taxi, Uber Eats et compagnie? Là?
Moi, j'irais dans une voiture compacte. Je sais que la réponse qu'on aime entendre, c'est souvent les petits VUS ou ces choses-là. Allez-y pour une voiture compacte. Autour de 2020, on avait des très bons produits. Je pense à une Honda Civic. Mm. Une Honda Civic avec un moteur 2 litres, là, c'est un moulin à coudre, cette affaire-là. Ouais. Ça meurt pas. T'sais, c'est des voitures qui sont très durables. Vous allez avoir longtemps. Allez pas chercher des mécaniques trop complexes. Si je prends encore Honda, un exemple, il y avait un moteur 1,5 litres turbo, un peu plus performant, mais vous n'avez pas besoin de ça pour faire du Uber ou des choses comme ça. C'est une berline, donc beaucoup d'espace de coffre. Vous avez des valises à transporter ou des choses. C'est pratique d'avoir un véhicule qui est polyvalent aussi. Toyota Corolla, Hyundai Elantra, c'est des produits comme ça qui ne sont pas très dispendieux. Si vous en voulez un encore moins cher, la Kia Forte pourrait être une option intéressante. Un véhicule qui n'a peut-être pas le pedigree de fiabilité des modèles que je viens de vous nommer, mais qui reste quand même un produit facile à entretenir, pas coûteux à rouler et qui peut donner une bonne durabilité également.
Fait que dans les véhicules d'occasion, les trucs que vous avez sortis sur rpmweb.ca pour pas acheter le trouble des autres, je trouve ça super intéressant parce qu'il y a encore des gens qui cherchent à aller dans l'usager.
Il y a beaucoup de gens. T'sais, ça coûte cher, hein, une voiture aujourd'hui.
Oui.
On regarde
c'est ridicule la différence de prix sur l'espace de quoi? 5 ans à peu près?
Oui, oui, c'est incroyable. L'augmentation est fulgurante. On a même eu des hausses jusqu'à 63 % des prix dans certaines catégories de véhicules. On a vu...
On va-tu revenir sur Terre à un moment donné?
Moi, je crois pas qu'il y a de retour en arrière massif qui va se faire. Mm. Je pense qu'il y a des modèles plus économiques qui pourraient revenir. On pourrait relancer des noms. On pourrait revenir avec des modèles de véhicules, mais je pense pas qu'on va descendre la moyenne tant que ça.
Parce que la hausse de prix avait fait qu'il y avait eu un ralentissement des ventes de véhicules automobiles. Là, on a connu une mini hausse dans le dernier trimestre, mais ça faisait longtemps que c'était pas arrivé.
Oui, oui. Puis tu sais, je pense pas qu'on s'en va dans des années où les marchés automobiles vont être explosifs en termes de chiffre de vente. Là, je pense qu'on va être plus conservateur. Et on voit d'ailleurs par l'âge du parc automobile, hein, au Québec et au Canada, les gens conservent plus longtemps leurs véhicules, ce qui fait en sorte que les voitures en général sur le circuit sont plus âgées. Et ça prouve un peu le point que les gens conservent et ou achètent dans l'occasion. Il y a beaucoup de trucs intéressants, puis je vais vous en nommer 3 qui, selon moi, peuvent vraiment vous éviter bien gros des problèmes. Okay? Le premier, puis je vais mettre quelques catégories ensemble, mais c'est de faire des bonnes vérifications au préalable. Pour faire ça, vous êtes capable d'aller voir aussi le pedigree de votre vendeur. Si vous achetez dans un concessionnaire de véhicules d'occasion, l'OPC, l'Office de la protection du consommateur, offre un outil gratuit qui s'appelle le profil du commerçant. Et avec ça, vous pouvez écrire l'adresse du commerçant, le nom du commerçant et compagnie, et on va vous sortir si jamais il y avait des mises en garde ou des éléments un peu spéciaux, je veux dire ça de même, autour du commerçant avec qui vous voulez acheter un véhicule. Donc ça peut déjà vous donner peut-être une idée. Est-ce que c'est un commerçant qui a déjà eu des litiges? Est-ce que c'est un commerçant qui a eu des problèmes?
Je savais même pas qu'on pouvait faire ça.
C'est facile, c'est gratuit en plus. Ça prend 2 secondes de faire ça. Ça peut juste vous donner un peu un pedigree sur est-ce que la personne à qui je vais m'acheter un véhicule est de confiance et je pars avec une bonne relation. Autre chose qu'on peut vérifier, ça c'est très facile, c'est d'aller mettre un 15$ sur la plateforme SACLIC pour aller voir justement l'historique de votre véhicule. Parce qu'on peut aller voir le Carfax d'un véhicule. Le Carfax, c'est le fameux document qui vous dit est-ce qu'il y a des accidents répertoriés sur mon auto? Est-ce qu'il y a des problèmes qu'il y a déjà eu sur le véhicule? C'est pratique le Carfax, mais il faut savoir que ce n'est pas l'ensemble des assureurs qui utilisent cette plateforme-là. Donc, il y a certains assureurs comme Bel Air Direct ou Intact.
So anglophone,
hein? Mais c'est ça. Mais Intact et Bel Air Direct sont deux assureurs qui ne vont pas mettre les données sur Carfax. Donc, tu sais, il y a beaucoup de véhicules sur la route qui sont assurés par ces assureurs-là et on n'aura pas nécessairement la donnée lorsqu'on utilise un Carfax. Donc, aller plus loin que ça sur SACLIC, c'est possible de le faire. Vous allez avoir le kilométrage, le nombre de propriétaires. Est-ce que c'est un véhicule qui a été échangé par 40 différents propriétaires à gauche puis à droite? Ou est-ce qu'il a été mis en circulation? C'est-tu un produit qui a été importé d'une autre province? C'est-tu un produit qui a été
vendu
ici?
Mais c'est quelque chose qui compte, Sam, si, mettons, on l'achète d'occasion dans un concessionnaire? Parce que dans ma tête, je me dis tout le temps, voyons, s'ils rentrent dans un concessionnaire, ils ne sont pas censés l'avoir chopé?
Non, faites-les. Oui. Mettez les 15 $. Vraiment. Non, ça vaut vraiment la peine. Puis vous êtes mieux de trouver une relation avec votre véhicule qui est la plus simple possible. On veut pas des relations de couple compliquées.
Ouais.
Là. On veut pas une relation avec notre véhicule qui est compliquée non plus. Donc, si son historique, c'est il a changé de main 50 fois, il arrive de l'Ontario, on sait pas trop ce qui s'est passé entre 2020 puis 2019. Puis là, maintenant, la couleur a peut-être changé. Là, demain, t'es pas clair. Passez dans d'autres choses.
Il y a le cœur brisé. C'est pas simple.
Désolé, mais c'est un véhicule qui a pas eu une belle vie. Autre chose à faire attention aussi, puis j'ai envie vraiment de mettre de l'enfance là-dessus, c'est essayez-le. Beaucoup de gens regardent des voitures en ligne parce qu'on trouve une bonne affaire dans une autre région au Québec. Puis là, on dit « Hey, je vais mettre un dépôt pour réserver le véhicule. » Puis là, d'ailleurs, les dépôts sont remboursables. Sachez-le, si jamais on fait des menaces avec ça, vous m'appelez. Mais vous êtes vraiment jamais censé payer un dépôt si vous n'achetez pas un véhicule. Donc ça, c'est remboursable à 100%. Mais si vous essayez pas le véhicule, vous n'allez pas savoir s'il va bien, vous n'allez pas savoir si vous l'aimez, vous n'allez pas savoir s'il n'y a pas un bruit louche que vous entendez, vous n'allez pas être capable de...
L'air climatisé marche-tu?
Mais tu sais, ouais. C'est important de tester la marchandise et ça vaut vraiment la peine de le faire. Et je pense que mon dernier truc qui est le plus simple et le plus efficace, c'est l'inspection. Faites une inspection sur votre voiture, s'il vous plaît, faites-le. Même si c'est dans un garage d'occasion, vous pouvez le demander de faire une autre inspection. Si le garage veut vraiment rien savoir, là, nous on veut rien, on veut pas savoir, nanana, peut-être que c'est pas le bon véhicule pour
ça
vous.
En dit long, hein?
Un particulier qui vous sort le même genre de choses. « Ah non, moi, je ne le fais pas inspecter. J'ai plein de monde qui veulent l'acheter. » Bien, parfait. Ça sera quelqu'un d'autre qui l'achètera parce que vous devez faire inspecter un véhicule. Vous pouvez tellement découvrir des choses intéressantes lors d'une inspection qui pourrait vous faire sauver des milliers de dollars. C'est la même chose pour un véhicule électrique. Ça s'achète aussi dans l'occasion. On peut les faire inspecter. On peut aller voir l'état de la batterie, savoir si la batterie est encore en bonne condition.
Pour les faire inspecter.
Il y a plein de garages qui se spécialisent là-dedans. Il y a des compagnies, je ne veux pas nommer nécessairement, là, mais des bannières de garages connus vont pouvoir le faire sans problème. Si vous êtes, vous voulez vraiment avoir la grande paix, allez donc au concessionnaire du modèle que vous achetez. Les autres sont spécialisés dans votre véhicule.
J'avoue, hein?
Pourquoi pas? Prenez un rendez-vous, allez voir là, ils les connaissent par cœur. Fait qu'ils vont pouvoir faire les tests nécessaires pour s'assurer qu'il est correct. Puis comme ça, mais vous allez vous éviter bien des problèmes.
Il y a deux petites questions d'auditeurs que je veux te poser tant qu'à t'avoir avec nous. Avec la roulotte et mon RAM 1500, avec le EMI,
ouais.
Je tourne à 35 litres 100 km/h. Est-ce qu'un Toyota avec le V6 turbo serait plus économique?
Seigneur Dieu!
C'est précis quand même,
non, mais c'est quoi que vous remarquez? Seigneur, 35 litres! Il y a bien soif, ce V8-là! Non, je trouve ça aberrant comme consommation. Là. 38 litres, c'est gigantesque.
35 litres au 5 km.
C'est gigantesque. Okay. Oh, ouais. C'est vraiment beaucoup de gaz. Moi, je pense que le Tundra, le problème actuellement qu'on a, c'est qu'il y a encore des rappels sur les V6 biturbo. Je peux pas vous envoyer là. J'ai pas envie de vous envoyer là parce que justement, on a connu encore des rappels, mais je sais pertinemment qu'un EcoBoost, un 3.5 chez Ford, va consommer pas mal moins que 35 litres au 100. Là. Si vous allez chercher un V6 3.5, vous allez avoir beaucoup plus de run, ça va avoir beaucoup plus de coupe, bien plus agréable à conduire sur la route, puis en plus, ça va moins boire.
Ton conseil pour Marianne, j'ai une question. Moi, je veux m'acheter une auto neuve, modèle traction intégrale, si possible, je fais énormément de route pour le travail.
Ah, ben là, écoute, ça, c'est le fun. J'aime ça, ces questions-là, parce que ça me donne beaucoup de choix. Mais ça dépend des budgets. Mais là, si, mettons, j'essaie d'être réaliste, je pense à des modèles connus comme un Subaru Crosstrek, par exemple. Petite voiture qui est un petit peu plus surélevée. On est confortable, on a un sentiment de sécurité,
une bonne
visibilité, un bilan de fiabilité qui s'est prouvé. Pas les plus économes en carburant, mais quand même avec le rouage intégral sécuritaire en hiver. Donc, si vous faites beaucoup de routes, c'est un format qui plaît. Moi, je l'appelle Capitaine Québec, la Subaru Crosstrek.
Ah, j'avoue. Hein.
C'est un véhicule taillé sur mesure pour les gens.
Moi, j'avais adoré la mienne.
C'est un produit qui est intéressant. Puis je penserais peut-être aussi, ça vous tente de jeter un œil à d'autres options. Dans cette catégorie-là, il y a les Hyundai Kona Seltos de ce monde. Mm. Deux produits intéressants, un peu énergivores également, qui ont un bon bilan de fiabilité et de garantie aussi.
Sam, avant de te laisser partir, je trouve ça intéressant parce que des fois, vous faites des espèces de dossiers, je vais dire, questions qu'on connaisse nos droits.
Oui.
Comme automobiliste, quand on achète un véhicule, quand on retourne un véhicule, les frais excessifs quand tu retournes un char de location. On dirait que tu le sais pas, ce qui est correct puis qui est pas correct. On dirait que t'oses pas t'ostiner, là, t'as payé plein de garanties puis de bébelles
c'est
pendant
vrai,
toute
la garantie
ta
d'esthétique.
Ah, ouais,
puis
ouais.
Le ci, puis le
ci. Puis là, finalement, la garantie d'esthétique, là, elle donne pas grand-chose.
Ça, il va pas bien. Comme si tu racontais un cauchemar.
Je vais perdre connaissance.
Et là, moi, je suis en location pour la première fois depuis un bon moment, là. Puis c'est quand même quelque chose à quoi j'ai pensé quand j'ai décidé de reprendre un contrat de location. Fait que c'est quoi nos droits à ce niveau-là? On la met où, notre limite?
Puis je vais donner tous les mérites de cet article-là sur le rpmweb.ca à David Vachon-Rose. Rosebery, qui est un avocat qui est un passionné de voitures, qui travaille avec nous. Donc, il nous fait des articles spécialisés juridiques sur le site web. Et je tiens à le dire parce que c'est vraiment lui qui a la crédibilité aussi de donner l'information que je vous donne à l'instant. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la récente loi 29 qui a été adoptée en 2023, qui est la fameuse loi anti-citron, est venue bonifier les droits des locataires de véhicules lorsqu'on remet une voiture de location. Une des premières choses à savoir, c'est qu'avant la fin du contrat de location, entre le 30e et le 60e jour avant de remettre le véhicule, la compagnie avec qui vous louez le véhicule, donc le concessionnaire, doit vous offrir une inspection gratuite de votre véhicule pour vous donner le bilan de santé de votre véhicule. Et ça, c'est écrit dans la loi, là. Ils n'ont pas le choix de faire ça. Donc, on est censé de faire l'inspection pour aller voir qu'est-ce qui est l'usure normale ou qu'est-ce qui est de l'usure anormale d'un véhicule. Donc là, après ça, on va vous donner un rapport. Et dans ce rapport-là, vous avez 10 jours pour régler les enjeux potentiels de la manière dont vous le désirez. Donc, vous n'êtes pas obligé de passer directement par le service du concessionnaire. Si vous avez des gens compétents autour de vous qui peuvent faire la réparation, vous connaissez un bon garage de confiance, vous pouvez faire les réparations nécessaires à de l'usure anormale. Il faut savoir que si cette inspection-là n'est pas faite, et que le concessionnaire ne vous la donne pas, on ne peut pas vous réclamer aucune somme pour de l'usure anormale sur votre véhicule. Donc, à la base, ça, c'est quelque chose qui est très important à savoir.
Fait que si tu ne reçois pas l'appel dans les 30 à 60 jours avant de remettre ton char,
Mme Pinchot, votre voiture, il y a telle affaire. C'est bien de valeur, mais je n'ai pas eu le droit à mon inspection que je devais avoir, moi, là. Fait que je ne le savais pas. Là.
Ah, c'est bon, ça.
Terminado finito. On vient de régler le problème assez rapidement. Donc, ça, c'est une affaire à savoir. Ça prend un rapport d'inspection aussi, absolument. Ça prend aussi un avis de lorsque vous faites les réparations, comme quoi les réparations ont été faites, on ne va pas pouvoir revenir contre vous sur cette usure anormale-là, celle qui a été spécifiée dans le rapport d'inspection. Donc, ça vous protège également pour des choses comme ça. Il faut savoir aussi que pour évaluer une usure anormale, ça commence à être complexe à juger. C'est dur de dire qu'est-ce qui est de l'usure anormale, qu'est-ce qui est de l'usure normale sur un véhicule. Si vous avez loué votre voiture sur 5 ans, vous arrivez, il y a des petits picots à gauche puis à droite sur la carrosserie, c'est de l'usure normale.
C'est un char de 5 ans.
Un véhicule équivalent de la même marque à vendre sur Marketplace va avoir probablement le même genre d'enjeu esthétique. Donc ça, c'est de l'usure normale. Et là, c'est là que ça devient un peu le jeu du chat et la souris, où là, qui a raison, qui a pas raison. Sachez une chose, c'est que dès que vous êtes capable de prouver que l'usure de votre voiture, elle est normale, qu'elle n'est pas excessive, il n'y a aucune raison pour laquelle on devrait vous charger des frais supplémentaires. Et vous pouvez juger vous-même, en tant que locataire, de dire « Moi, je ne paye pas pour ça parce que ce n'est pas de l'usure anormale. » Vous remettez le véhicule et c'est au concessionnaire de vous poursuivre pour essayer de faire prouver devant un juge qu'il y a effectivement de l'usure anormale sur votre véhicule.
Il y a des bonnes chances qu'il laisse faire.
Il y a des énormes chances que ça n'arrive pas. Donc, dites-vous que c'est une
question... On sent souvent qu'on n'a pas le gros bout du bâton, non, fait qu'on n'ose pas. Hein?
Puis là, je vous parle de tous ces droits-là. Il faut savoir une chose aussi. Les concessionnaires ont tout à faire et les compagnies ont tout à faire pour essayer de vous garder comme client. Dans le sens, c'est bien plus payant pour eux de vous garder en tant que consommateur dans le même concessionnaire. Donc, généralement, lorsqu'on loue un véhicule avec une marque qu'on apprécie et qu'on a un autre modèle qu'on convoite dans l'alignement, il n'y a généralement pas de problème de remettre une voiture de location et de repartir en neuf avec un autre véhicule.
Moi, c'est ce que je fais. En passant, je loue un véhicule, puis quand on arrive vers la fin ou que c'est le moment où est-ce qu'ils nous appellent pour savoir si on veut changer de véhicule, je fais toujours un peu semblant que je ne suis pas certaine encore. Puis que...
C'est ça.
Puis là, tout à coup, là, les petites pocs, là, puis les petites affaires, là,
ça compte plus.
C'est pas
hein?
grave.
C'est pas grave. Grave. C'est l'enfer.
C'est pas grave, finalement, vous allez repartir en voiture neuve.
Exact. Ouais,
c'est ça.
voilà. Fait que c'est pour ça que je vous dis, c'est une relation aussi là-dedans. Je pense que quand on est des gens qui n'ont pas surbattu des véhicules, n'ont pas usé de manière anormale un produit, généralement, ça se passe très bien. Donc, enlevez-vous de la pression. Puis les fameuses garanties à gauche puis à droite, touchez pas à ça, s'il vous plaît.
Ah, mon Dieu.
Je sais pas combien de fois je le dis, là, mais.
On pourrait faire une autre chronique complète là-dessus, j'ai l'impression qu'on le sait pas. Hein? Samuel Tremblay-Michaud, chroniqueur automobile, vous pouvez le retrouver sous ce nom. Page Facebook toujours existante?
Toujours existante, un petit peu plus lent, mais sinon, vous pouvez nous écrire aussi sur le rpm.ca, on répond aux questions de tout le monde.
Donc, chroniqueur et journaliste pour RPM, ces textes se retrouvent là aussi. J'ai l'impression que ça peut peut-être répondre à beaucoup de questions que vous avez. Il y en a qui rentrent encore. Je vais vous rediriger. Allez y écrire, là. Il va vous répondre. Il tombe en vacances, il y a le temps.
Je tombe pas en vacances, moi, je tombe en tournage.
C'est vrai, c'est du tournage.
Ben oui, je suis pas en vacances, moi, là.
Hey, moi, je suis en train de dire tantôt que tu t'en allais en vacances, non, c'est tout sauf ça, dans le fond.
Je pars à l'instant pour Charlevoix, ça va tourner RPM.
Ah, mon Dieu, mais va-t'en, vas-y.
C'est tellement beau, belle région.
Magnifique. Profitez-en, Sam, merci, puis on se rejoint cet été. Sam Tremblay-Michaud, vous voulez retrouver la chronique, elle sera sur le blvd.fm. On revient dans les prochaines minutes, dans le retour de Boulevard 102. Le retour. 15h32 minutes à Boulevard 102.1. Je m'appelle Audrey. Autour de la table, Véronique Bergeron, Antonine Iaccarini. On est là jusqu'à 18h dans le retour de Boulevard 102.1. Sam Tremblay-Michaud qui vient de nous quitter. Je vois que les questions continuent d'entrer au 88-971-1021. Allez, il jasait sur sa page Facebook. Il est toujours disponible. Je me souviens d'un hiver où il avait littéralement aidé un auditeur à se...
À booster son char
en plein...
Il est serviable.
Il est serviable. Il aime ça. Il est passionné. Dans les prochains instants, un peu plus tard, en fait, Paul Lévesque va venir s'installer avec nous. On va jaser des gens chialeux. Tu sais, le monde qui sont tellement négatifs, tellement chialeux qu'on dirait que ça déteint ses autres un peu. Puis si on n'arrête pas de parler d'à quel point on est rendu impatient, intolérant. J'ai comme l'impression que ces gens-là n'aident pas la cause, je vais le dire comme ça. S'il y a quoi que ce soit, ben c'est toujours le 88-971-1021 texto, 780-1021 par téléphone. Vous vous gênez pas. Vous rappelez que sur les routes en ce moment, Capitale-Est, entre Henri IV et Robert Bourassa, c'est pas mal installé. Ouest, semble y avoir un incident en ce moment dans le coin du boulevard Henri Bourassa qui crée un certain ralentissement entre Bourg-Royal et Henri Bourassa. En Laurentienne, direction sud, pardon, si vous tentez d'aller prendre la Bretagne, pour la capitale, direction ouest, dans la Bretelle, il y a un ralentissement. Henri IV Sud, ça se passe carrément entre Wilfrid Hamel et, je vous dirais, chemin Sainte-Foy. Des ralentissements aussi à partir de Quatre-Bourgeois jusqu'à l'entrée des ponts. Duplessis Sud, chemin Sainte-Foy au pont. Sur la rive sud, ça va se passer sur la 20, direction ouest, entre la route du président Kennedy et Taniata. On en parle depuis le début de l'émission, mais des nombreux travaux qui n'aident vraiment pas au ralentissement. Et si vous tentez de passer par Guillaume Couture, bien, vous aurez compris qu'il y a quelques problèmes de ralentissement également. Dû à des travaux, oui, mais dû au fait que les gens essaient d'éviter la 20. Donc, c'est quand même difficile sur la Rive-Sud. S'il y a autre chose, encore une fois, 971-1021. Dans l'actualité, Véro, ça bouge.
Quand même pas mal de stock. Il y avait une présentation d'un nouveau candidat pour le Parti libéral du Québec du côté de l'Abitibi. Pierre Dufour, ce nom que vous avez entendu, c'est un ancien ministre caquiste. Il avait reproché, entre autres, au gouvernement Legault de ne pas s'occuper suffisamment des régions. S'était retrouvé assiégé comme indépendant. Et là, ça avait coulé en fin de semaine là, qu'il changeait de couleur de parti.
On est-tu ces gens-là encore ou on n'est plus là?
Ça dépend, je pense, du type de personne. Puis je pense que c'est toujours les électeurs qui ont le dernier mot.
Oui, puis une évolution politique, ça se peut. Hein? En passant, absolument, les partis, ça peut changer.
Moi, je crois à ça. Là.
Mais... tu as été candidat et ministre il y a 4 ans, puis là, tu changes parce que tu as été exclu. Moi, ça, je pense que les électeurs ne laissent pas nécessairement ça passer. C'est pas une évolution idéologique dans ta tête. Mm. Puis il va nous dire, tu sais, c'est sûr qu'il va justifier en disant c'est parce que c'est les régions, puis que là, je vois que Charles Milliard est plus ouvert aux régions.
Mais c'est-tu naïf, Antonine, de penser que peut-être que certaines personnes, que le parti en soi, on s'en fout, ils veulent juste pouvoir avoir une voix,
ben oui,
puis être capable de faire bouger les choses?
Mais je trouve qu'à un moment donné.
Pas sur cette liste-là. Là.
Ben, moi, je trouve qu'à un moment donné, c'est pas normal que les gens fassent pas de différence entre les partis politiques. Ça veut dire, à quelque part, que l'offre politique n'est pas claire.
Ah,
les valeurs des personnes ne sont pas claires non plus. Donc, tu veux faire de la politique à tout prix? Ou il y a un projet politique et une vision pour le Québec que tu portes et que tu partages avec des collègues? Moi, à un moment donné, que tu puisses passer d'un parti à l'autre puis que ça ne change rien, je crois pas à ça. Sans être complètement idéologique puis boqué sur tes opinions, ça prend un fil conducteur. Est-ce que tu es en politique juste parce que tu as le goût d'être en politique ou il y a des choses sur lesquelles tu veux travailler avec ton équipe?
Pendant ce temps-là, la CAQ devra se trouver un nouveau candidat, cette fois-là dans le secteur de Dubuc, c'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce que François Tremblay avait fait parler de lui au courant des derniers mois. Il s'était fait arrêter pour les conduites avec les facultés affaiblies. Souvenez-vous, je pense qu'il était rentré dans une clôture de mémoire. Puis il n'avait pas eu le choix de quitter la CAQ, mais lui avait l'intention de plaider non coupable à ces accusations-là. Là, vous comprendrez que lui quittera donc la vie politique tout court. Il y a, à l'Hôtel de Ville de Québec, on a confirmé qu'on entérinait l'avis de proposition déposé par Stéphane Lachance de Respect citoyen. On réclamait qu'il y ait un débat des chefs de l'élection provinciale qui a lieu à Québec, donc l'automne prochain. On avait fait durer le suspense, entre guillemets, la semaine dernière, mais ça aurait été bien étonnant que le parti de Bruno Marchand, qui n'arrête pas de clamer que les grandes annonces doivent se faire à Québec, Québec, c'est la capitale, il y a une loi qui en fait la capitale, il faut respecter ça.
Il n'y avait pas de raison de ne pas adhérer à ça.
Exactement, ça aurait été de la... simple mauvaise volonté. Fait que pas de surprise de ce côté-là. Ottawa qui va confirmer tout à l'heure qu'on a choisi TKMS, un consortium germano-norvégien, pardon, pour la construction des 12 nouveaux sous-marins dont on a besoin pour rajeunir la flotte vieillissante qu'on a du côté de la marine royale canadienne. Ça risque d'être un contrat quand il sera signé, parce que ça se fait pas automatiquement, qui peut s'élever à 90 milliards de dollars, qui aurait... selon la compagnie, des retombées à 86 milliards de dollars pour l'économie canadienne. Ça, c'est pour l'entretien sur de nombreuses années. La création de 50 000 emplois aussi par an pour s'occuper de tout ça. Air Canada qui va à nouveau réduire ses vols en direction des États-Unis. La première fois, on avait justifié ça par deux éléments, la hausse du prix du kérosène et le plus faible achalandage de voyageurs à destination des États-Unis. Là, il va suspendre ou retarder 8 liaisons transfrontalières à partir de cet automne. 3 qui sont au départ de Toronto et de Montréal vers des villes du Midwest américain. C'est le deuxième hiver consécutif qu'on va faire ça. Puis il y a 3 liaisons saisonnières au départ d'Ottawa, de Montréal, mais aussi de Québec ici vers la Floride qui, elles, vont débuter en décembre au lieu d'octobre. Puis d'ailleurs, si vous avez eu un vol qui a été annulé pendant la pandémie puis que vous n'avez pas eu un remboursement intégral, il y a une décision qui a été prise d'une action collective qui va toucher autant Air Canada, Air Transat et WestJet que Sunwing puis leurs filiales, qui va faire que vous pourriez recevoir 500 $ en dommages sans même avoir besoin de le réclamer. Moi, je sais que j'ai un vol qui a été annulé pendant la pandémie, mais je ne me souviens pas si j'ai été remboursée au complet. Fait que j'ai même pas besoin de me poser la question.
Ils vont te donner 500 $
semble-t-il. Fait que c'est une des exigences là, des compagnies, c'est d'afficher l'avis, mais les gens n'ont pas rien à faire par rapport à ça. C'est comme ça que la nouvelle s'est mise à circuler. Pour la première fois, vous souvenez-vous quand vous attendiez vos derniers bulletins pour savoir si vous aviez passé les épreuves du ministère?
Oui.
Moi, je m'en rappelle plus, honnêtement.
Moi, je m'en souviens encore, puis je voulais être la première à tricher au bulletin pour, avant mes parents, là, pour comme valider, savoir si j'allais avoir l'argumentaire.
Des relations publiques à faire.
Exactement. Tu vois, c'est pour ça que je me suis en allée là-dedans à l'université après, clairement. Pour la première fois, les élèves de secondaire 4 et 5 vont avoir accès en ligne à partir de demain aux résultats des épreuves du ministère. Auparavant, il fallait attendre vraiment que tu reçoives par la poste au mois d'août les notes en question. Mais là, c'est avec l'identité numérique là, qu'on peut avoir à partir de 14 ans en ligne pour accéder aux différentes plateformes du gouvernement, qu'on va être en mesure de voir les résultats sanctionnés par le ministère de l'Éducation. Fait que, tu sais, ceux qui étaient comme sa limite, ou encore, je pense à ceux qui étaient acceptés conditionnellement au cégep, soit avec des cours ou encore, tu sais, pour avoir une moyenne de notes, là, j'ai l'impression qu'il y en a une couple que demain, ils vont comme se faire « oh, ça serait le fun que j'aille voir qu'est-ce qui va se passer là-dessus. »
Que je prenne des cours d'été, quelque chose.
Peut-être. Non, mais ça, il est trop tard, je pense, pour les cours
d'été.
C'est
vrai, on est déjà en juillet.
Ils se terminent au courant des prochaines semaines.
Bon, mais ça leur donne juste le temps de se faire un argumentaire un peu plus d'avance.
Les relevés d'apprentissage, eux autres, vont rester quand même envoyés au mois d'août. Et en terminant, l'astronaute Jeremy Hansen, on a beaucoup parlé de lui parce qu'il a fait partie du voyage Artemis 2 là, qui a été en orbite autour de la Terre, puis ça faisait de lui le premier Canadien à aller aussi loin. J'ai dit autour de la Terre, hein, autour de la Lune. Le premier qui s'est éloigné autant de l'orbite terrestre, bien là, lui a annoncé aujourd'hui qu'il quittait sa job à temps plein à l'Agence spatiale canadienne. Je pense que c'est la première fois que j'entends un astronaute qui quitte sa job à l'Agence spatiale canadienne, parce qu'habituellement, il travaille là pendant des années et des années. Hein? Il dit qu'il va se consacrer à de nouvelles avenues professionnelles à partir du mois de septembre. J'ai hâte de voir.
Il peut si il l'annonce, c'est ça. Moi, je pense que si on prend la peine de l'annoncer, puis c'est peut-être pour ça aussi que si d'autres personnes ont quitté l'Agence spatiale canadienne dans le passé, il n'y avait pas intérêt nécessairement à le dire publiquement. S'il le dit publiquement, ça doit être quelque chose de public.
Parce qu'il y a des partiels qui s'en viennent, entre autres,
au fédéral. Ça peut être des élections, ça peut être politique, ou alors ça peut être quelque chose dans l'espace public, dans le monde médiatique.
Parce qu'il a été très, très bon avec les médias, autant en anglais qu'en français. C'est un gars qui était...
On peut spéculer, là, puis rêver, mais, ou brainstormer ensemble, tu sais, par exemple, d'animer une émission scientifique liée à l'espace. Hein? Je sais pas, moi, ça peut être n'importe quoi. Hâte de voir, mais si on l'annonce publiquement, j'imagine que c'est pas pour rentrer chez lui puis qu'on le revoit plus jamais.
Non, ben, ça risque de venir avec un poste...
Oui, c'est
public,
un... il va quand même garder ses fonctions de réserviste au sein de l'aviation royale canadienne parce qu'à l'origine, il était pilote de chasse quand il a été recruté par l'Agence spatiale canadienne en 2009.
Il semble que quand tu te rends là dans la vie, je voudrais pas quitter.
Moi non plus.
C'est le genre d'affaires où, me semble, tu travailles tellement fort que tu restes là, je sais pas.
Mais peut-être qu'à un moment donné, tu as fait le tour.
Le tour de la Lune.
De l'espace. Ouais, le tour de tout l'espace.
Et qu'est drôle.
Hey, Anto, faut qu'on jase FIFA. Puis là, je me tourne vers toi parce que c'est comme un sujet sport et politique d'une certaine façon.
Tu sais, la politique, c'est sportif.
D'une certaine façon, c'est toujours politique
aussi.
Ben oui, effectivement. Là, c'est des affaires que moi, j'ai vu passer dans ma fin de vacances. Fait que là, je crois comprendre en écoutant les différents médias depuis ce matin que Trump s'est mis le nez dans FIFA.
Oui, bien, il se met le nez dans n'importe quoi. Il n'y a aucune gêne et la Coupe du monde
des
ne fait pas exception.
Des fois, j'ai peur qu'il vienne se mêler de mes affaires à moi personnelles.
Ça se pourrait. Ça se pourrait, Véro, on ne sait jamais. Sois vigilante. C'est gros, honnêtement, parce que, ben, premièrement, en ce moment, la Coupe du monde, c'est gros. Là, on vit pas mal au rythme de la Coupe du monde qui se passe notamment aux États-Unis. Et Donald Trump qui aurait fait pression sur la FIFA.
Pas qu'il aurait, lui, dit carrément qu'il est intervenu, qu'il a demandé un réexamen.
En fait, là, on a eu confirmation parce qu'il a tweeté un remerciement par la suite. Parce que, en fait, il a truthé, parce que c'est sur son média social, Truth. Au départ, c'était des sources qui rapportaient qu'il aurait fait pression sur la FIFA pour faire annuler un carton rouge qui a été donné à un des joueurs de l'équipe américaine.
Leur meilleur joueur, en principe.
Leur meilleur joueur, je vais essayer de bien dire son nom, Folarin Balogun.
Bravo.
Mon chum m'a envoyé un vocal tantôt pour que je le dise comme il faut, alors j'espère que je lui rends bien.
Hey, make it till you make it, moi je te suivais. Là.
Exactement. Là. Donc, des sources avaient rapporté ça. Il faut dire aussi que M. Trump se dit lui-même un ami personnel du grand patron du football, Gianni Infantino, et qui lui a fait valoir que c'était injustifié. Là. Puis on l'a vu en point de presse, Trump s'est adressé aux médias et dit « Moi, je pense que la faute était vraiment injustifiée. » Il joue à l'arbitre carrément.
Sa vie.
Mais c'est pas
c'est
job
pas grave.
Non plus. Là.
Non, puis de toute façon, ben, ce qui est fou, c'est que ça a fonctionné. Donc, la suspension du joueur est annulée et ça change quand même beaucoup de choses parce que c'est un bon joueur. Là, ils vont les États-Unis jouer contre la Belgique et le fait d'avoir ou non leur meilleur joueur, tu comprends que ça change le cours de la Coupe du monde.
La Belgique a essayé de challenger
c'est
la décision. Ça a été refusé par la FIFA. Ils ont écrit de longs posts pour dénoncer ça. Ils ne sont pas les seuls. Il y a différentes associations.
Je serais gênée.
À travers le monde.
Mais lui,
comme,
il n'en a
donc.
Aucune. Mais être les joueurs...
Mais c'est ça. Moi, être de cette équipe américaine-là, je serais gênée.
Puis si on commence ça, ça va jusqu'où? Il faut dire que la FIFA n'est pas à ses premiers scandales. Là. Il y a quand même pas mal d'odeurs de corruption qui flottent depuis longtemps. Mais là, c'est grotesque. Là. On est comme dans un mauvais film présentement. Puis il y a pas mal des vrais amateurs de soccer, de football, qui disent que c'est exactement ce genre de choses-là qui contribuent à carrément tuer le foot. Et tuer l'esprit du soccer et de la Coupe du monde.
Je pousse même à dire que je pense que si j'étais le joueur concerné, je me retirerais moi-même. Tu sais, dans le sens
pourquoi
que la décision...
La
mais c'est ça, la décision a été prise, je retournerais pas là, là.
Mais c'est comme aussi, quel est le plaisir ou la fierté de gagner quand les choses n'ont pas été faites correctement? Ouais. T'sais, moi, j'essaie de montrer ça à mes enfants quand on joue à un jeu. T'as aucune gloire
à tricher. À gagner en trichant.
Donc, quand ton président passe derrière toi, comme un papa là, avec son enfant là, qui dit « Non, c'est pas vrai, mon enfant est parfait, là, tu peux pas lui donner de punition, toi le prof ou toi l'éducatrice. » Effectivement, si j'étais ce joueur-là, je serais extrêmement gênée. Puis après ça, ben, si les États-Unis ont une victoire dans leur prochain match, est-ce qu'on va dire ben, « c'est parce que leur président est allé faire pression. »
S'en est mêlé,
donc,
c'est ça.
C'est vraiment ridicule. Ce matin, nos collègues recevaient en entrevue Ali Gerba, qui est un ancien joueur de soccer professionnel. Il a joué notamment pour l'Impact. Et ils lui ont demandé « Est-ce que c'est étonnant que la FIFA ait pris cette décision-là de reculer sur le carton rouge de Balogun. Et voici ce qu'il nous a répondu.
Le sport et la politique, surtout de la FIFA, couchent dans le même lit. C'est difficile de faire comme si on ne fait. On est surpris, mais il y a beaucoup de choses que, encore là, on ne comprend pas derrière le jeu. Mais c'est vrai que ça entache le soccer. Énormément.
Écoute, puis même si on passe par-dessus les agissements de M. Trump, puis qu'on essaie vraiment de regarder objectivement cette décision-là, de donner un carton rouge à ce joueur-là, est-ce que c'était justifié? Parce que même M. Trump, des fois, peut avoir raison. Là. Je veux dire, même une horloge détraquée peut donner l'heure à bonne heure
deux fois par jour.
on lui a posé la question aussi à Ali Gerba. Est-ce que cette faute-là était méritée? Voici ce qu'il nous a répondu.
À 200%, je crois que c'était une faute qui était dangereuse, aussi grave que certaines fautes que... Bon, ils n'ont même pas appelé aussi, il y a une certaine faute aussi de Messi, qui était aussi grave que d'autres. Dans ces décisions-là, on a toujours cette expression de favoritisme pour un certain joueur, une certaine équipe ou bien un certain groupe de personnes.
Donc, M. Trump, qui a en quelque sorte entaché, je pense, vraiment cette Coupe du Monde. Dans d'autres éléments qui ont marqué l'attention dans la Coupe du Monde, ben, c'est le Canada qui a été éliminé
contre le Maroc.
Fin de parcours, qui, je pense, un parcours qui peut rendre fiers les partisans de l'équipe. Honnêtement, c'était pas gênant. Puis je pense qu'il y a pas mal de gens qui pensaient même pas que le Canada allait se rendre aussi loin. Mmh. On n'a pas cette habitude-là que le Canada soit compétitif.
Non, mais dans 4 ans, on va avoir des attentes, par exemple.
Ben, c'est ça. Nos attentes vont monter. Donc, la pression risque d'être un peu plus élevée.
On dit dans 4 ans, mais même au prochain jeu d'été, on va surveiller beaucoup plus le soccer masculin, j'ai bien l'impression. Là.
Antonine, je fais de toi une femme de sport.
Oui.
Les matchs à venir?
Donc, effectivement, on est rendu dans les huitièmes de finale qui se poursuivent. D'ailleurs, ça commence à être... Les enjeux commencent à être plus grands, là. Donc, tu n'as plus le droit à l'erreur rendue à cette étape-ci.
D'ailleurs, tu sais, hier, l'Angleterre a gagné contre le Mexique. Avez-vous vu ce que les fans mexicains ont fait?
Non.
Ils ont trouvé l'hôtel où logeait l'équipe britannique. Puis sont allés faire du barda pendant toute la soirée.
C'est intense, hein? Ils vivent ça très, très intensément. Donc, les États-Unis et la Belgique ce soir, avec Follarine Balogun, évidemment, maintenant que M. Trump est passé derrière. Portugal contre l'Espagne, qui est débuté, c'est en ce moment. Demain, on surveille Suisse contre la Colombie. Et on sait aussi que la France va affronter le Maroc en quart de finale parce que, ben, ils nous ont battus, le Maroc. Alors, les voix voilà, qui vont avoir un match contre les Bleus. Et la Norvège va affronter l'Angleterre en quart de finale aussi. Donc, c'est les gros matchs à venir.
Merci, Antonine. 15h48. T'es une femme à tout faire. Hein? On va saluer ton talent quand même.
Ouais, je dois dire que chez moi, mes gars, ils écoutent ça vraiment beaucoup. Mon chum, son setup de job, j'espère que ses patrons n'écoutent pas, mais il est quand même très efficace. C'est son laptop de job avec un deuxième laptop à côté avec les matchs de Coupe du Monde ou... de le Tour de France qui a lieu en ce moment.
Il est loin d'être seul, on va se le dire. Là. Ben oui. 15h49, on reçoit dans les prochains instants Paul Lévesque, spécialiste du comportement humain. Paul qui vient nous voir tous les lundis en saison régulière, puis on a décidé de garder l'habitude cet été. Et c'est un sujet qu'on traînait depuis un moment quand même, depuis quelques semaines dans les propositions de Paul. Et c'est un sujet qui parle des chialeux. Les chialeux qui affectent notre humeur. On est déjà une société assez intolérante à plusieurs niveaux. On parlait avec Sam tantôt de tout ce qui était automobile sur les routes, c'est la preuve, on va se le dire. On peut-tu s'aider un peu? Comment se protéger des chialeux? Puis j'aime vraiment l'angle, parce que moi, je fais partie des gens très éponge à ce qui m'entoure. Je fais partie des gens qui peuvent virer d'humeur sur un 10 cents si j'ai quelqu'un d'ultra négatif autour de moi.
Ouais, je me suis rendu compte que moi aussi.
Oui, hein?
Ouais, tu sais, d'habitude, j'ai une bonne capacité à garder une distance, mais il y a des contextes où tu ne peux pas mettre une distance physique.
Exact.
Que le mur de la distance mentale, il est dur à garder debout.
Ça vient étouffe un moment donné. Le Paul, salut!
Ben bonjour!
Contente que tu nous retrouves cet été!
Moi aussi, c'est un bonheur d'être avec vous. Tu m'as proposé le thème, Audrey.
Oui!
Puis, pour prendre le bon angle, j'ai envie de répondre à ce que vous avez vraiment besoin pour se protéger des chialeux et des chialeuses, parce qu'on peut le mettre au féminin aussi.
Ah oui!
Ah oui, il y en a, là!
Quand même! Qu'est-ce qui serait profitable de savoir par rapport à ce sujet-là aujourd'hui? De quoi vous avez besoin en fonction de ce que vous vivez par rapport au chiolage?
Bien, j'ai envie de dire personnellement, puis corrigez-moi les filles, mais j'ai l'impression que c'est tellement large. La mauvaise humeur, les chialeux en général, c'est contagieux. Là. Je pense que ça vaut même pas la peine de te poser la question. Seul l'est. Moi, j'ai envie de savoir pourquoi. Pourquoi ça nous affecte autant? Puis comment on est capable de mettre une barrière mentale? Véro le disait bien.
Oui, parce que moi, je préfère que ça me coule sur le dos. Parce que je me rends compte qu'un chialeux, tu pourras jamais le faire changer.
T'as raison.
Peu importe ce que je vais répondre, même si j'essaie de raisonner la personne, même si j'essaie de faire voir le bon côté des choses, même si la personne est dans le tort puis que j'arrive avec les arguments les plus bétons, je pense que les gens qui chialent, c'est parce qu'ils aiment chialer dans la vie. C'est leur pain, c'est leur beurre. C'est, je sais pas s'ils se définissent par ça.
On le voit
comment
sur les réseaux sociaux.
Arrêter de porter attention à un moment donné.
En psychologie, on dit un parapluie émotionnel. Ouais. C'est cute pareil. Là, mais une
ça
fois qu'on a dit ça...
ça?
Bien, écoute, je serais riche. Je pense que je serais riche ou pauvre parce que j'aurais plus beaucoup de consultations. Parce qu'on sait qu'on est des êtres influençables. Mais la bonne nouvelle, ça veut dire qu'on peut s'auto-influencer. Comment on fait pour s'auto-influencer pour vivre et survivre à une société actuellement qui a une tendance? Donc, on vit dans une société aux tendances de chiolage. Avez-vous remarqué? Le chiolage quand on est en attente à l'épicerie, le chiolage en voiture, le chiolage, justement, hier, je suis en train de faire des courses, j'entends les gens chialer autour de moi parce qu'il y a un enfant qui pleure.
Ben, les gens sont même plus gênés. Hein? Ça soupire à voix haute. Ça fait sentir le désaccord, le mécontentement.
Donc, derrière le chiolage, il y a le manque de tolérance. C'est qu'on n'est plus capable de tolérer rien.
Moi, je ne tolère pas les chialeux. Fait que c'est comme...
Ouais, c'est ça, on fait quoi dans ce temps-là?
Ben, y a des tolérances qui sont justes, c'est-à-dire qui sont un moyen de se protéger. Bon, on sait que le cerveau va être attentif plus au négatif. Parce que si tu regardes dans la préhistoire, le cerveau devait se protéger des menaces.
C'est de la survie.
De la survie, exactement. Donc, le cerveau, il a appris à être extrêmement friable de tout ce qui est négatif pour se protéger. Donc, on pourrait dire que le négatif est comme 5 fois plus fort que le positif. Donc, on va être beaucoup plus attentif et atteint par ce qui est négatif. Donc, le chiolage, on le met bien sûr dans le contexte du négatif. Ce qui vient nous atteindre plus. Donc, ça veut dire que on pourrait avoir vécu une journée de plénitude où tu as rencontré des gens charmants, agréables, nourrissants. Mais il s'agit qu'il y a eu, autour de la machine à café, un petit maudit fatigant ou une petite maudite fatigante pour que ça vienne affecter.
Ça teinte tout, t'as raison. Puis c'est particulièrement vrai sur les médias sociaux. Oui. Moi, mettons qu'on publie quelque chose, là, puis on va avoir 25 commentaires positifs. C'est le petit commentaire négatif qui va m'habiter pendant des heures par la suite.
Ce qui est fâchant, c'est que c'est ce que ces gens-là veulent provoquer souvent.
Puis on ne voudrait pas que ça nous affecte parce qu'on ne veut pas les récompenser. Est-ce qu'on peut être dépendant au chiolage? Parce que j'en regarde certaines personnes qui chiolent tout le temps.
Oui.
C'est une dépendance quasiment à ce, au chiolage.
Bien, ce que ça fait, c'est que ça amène de l'attention, malheureusement. Donc, si c'est payant, on va continuer à avoir ce comportement-là. C'est comme une façon d'entrer en communication, une façon négative, mais d'avoir de l'attention. Donc, quand tu chiales, habituellement, tu as de l'attention.
Puis c'est quoi la différence ou à partir de quel moment on passe d'une personne qui exprime un problème à une personne qui chiale constamment?
Comment tu fais
la différence entre les
deux? C'est vrai qu'on s'est rendu qu'on est, nous, on est tellement intolérants qu'on les différencie pas tout le temps.
Bien, je te dirais que le chialeux cherche des coupables. Alors que celui qui est peut-être en train de vivre une situation difficile,
plus revendicateur, mettons, là.
Oui, il va chercher une solution.
Ah, j'aime ça.
Tu vois la différence?
Si c'est constructif, c'est vrai que ça va moins gosser.
Oui. C'est-à-dire que tu as le droit de critiquer, tu as le droit d'être à bout, puis j'espère qu'on peut se donner cette permission-là. Mais habituellement, après avoir ressenti ces émotions-là, on va être plus en action et en recherche de solutions, alors que le chialeuse, chronique, il va être à la recherche de coupables.
Chronique, j'aime ça. Mais est-ce que c'est une question de personnalité ou d'habitude, être chialeux? Ça se change-tu? T'sais, est-ce qu'il y a des gens qui sont profondément négatifs et chialeux de base depuis toujours ou c'est quelque chose que tu apprends avec le temps et que tu peux modifier?
Bien, pourquoi on devient chialeux ou chialeuse? Hein? Il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître. Bien, c'est d'abord, c'est des gens qui ont une tendance naturelle à voir le verre à moitié vide. Il y a une tendance naturelle. Il y a des gens...
C'est inné, ça!
T'as-tu remarqué qu'il y a des gens qui ont le bonheur facile?
Oui.
Bien, il y a des gens qui ont le malheur facile. Des fois, ça peut être familial aussi. Tu rencontres des familles de chialeux.
C'est vrai.
De chialeuses. Hein? Donc, ça peut se contaminer. T'as raison, ça peut être une mauvaise habitude. Donc, ça peut être... On a commencé par chialer un peu, puis finalement, ça devient un peu comme se ronger les ongles. On commence quand on est stressé, puis finalement, on se met à se ronger les ongles.
Ça devient réflexe. Docteur, est-ce que ça se guérit?
Une mauvaise habitude. Bien, ça dépend où est la racine du mal, mais moi, je crois que la façon de changer les choses, c'est d'avoir l'humilité de le reconnaître. Alors, le mot vérité est extrêmement important. À partir du moment où tu as un vice, une mauvaise habitude, quelque chose qui n'a pas d'allure, bien, si tu n'es pas dans la vérité, l'humilité de reconnaître, tu ne changeras pas.
Ça se dit-tu à quelqu'un?
Bien, sais-tu quoi le problème avec les chialeux? C'est qu'ils cherchent des coupables. Donc, ce n'est pas eux qui sont en cause. C'est la météo, c'est le monde entier, c'est le gouvernement, c'est la radio qu'on écoute, etc. Donc, ils ont peu d'options vers le soi, sont plus vers l'extérieur. Mmh. Fait que comme il faut être dans les vérités pour changer le comportement et avoir l'humilité de se regarder, ils ont plus une propension à dire c'est la faute des autres.
Mmh.
C'est ce que j'appelle l'effet trampoline. C'est des gens qui sautent, mais sont toujours à la même place.
Puis comment on évite que l'énergie négative d'un collègue ou d'un proche nous contamine?
Bon.
On arrête-tu de l'écouter? Ou de réagir?
Ce qui rentre dans les oreilles rentre dans le cœur. Donc, moins longtemps exposé au chialeux, moins l'éponge va absorber. OK? Donc, la façon la plus simple, c'est reste pas à côté. Non, mais je veux dire, non, mais parce que t'as beau dire ça me dérange pas, je fais comme si ça n'existait pas, puis je vais vous en donner des trucs. Mais à partir du moment où ça rentre dans les oreilles, ça rentre dans le cœur. Puis exposez-vous pour le fun une soirée de temps aux médias sociaux ou à regarder les trucs négatifs.
Je peux plus.
Ma vie est trop précieuse.
mais tu vois comment vous réagissez? Tu vois l'impact que ça a sur toi? Mm-hmm. T'as beau dire ça me dérange pas, je vais lire de façon cartésienne. Ça a un impact. Et c'est tellement fort que l'année passée, je suis partie un mois en Europe. Hein, ça se passe bien dans la conversation. Je suis partie un mois en Europe, OK? Et j'ai vu, parce que je ne pouvais pas écouter rien, c'était en allemand, c'était en norvégien, c'était en bon. Fait que j'ai décidé de me couper de tout. Et quand je suis revenue, j'ai pris la décision de ne plus jamais écouter les nouvelles. Si j'avais besoin d'informations, j'allais la lire, oui, etc. Mais je ne m'exposais plus aux nouvelles TVA et compagnie, là. Ça a eu un impact, okay, direct, je vous jure, sur moi. Parce que c'est sûr que les nouvelles, c'est négatif, mais la façon de la porter était très anxiogène.
Oui, il faut que tu écoutes les nouvelles que nous, on donne. Ça, ouais, si c'est bien, là, oui, tu ne seras pas trop découragé. Bon.
Oui, oui. Ben, en fait, se donner un temps. Donc, quand on veut travailler la survie autour des chialeux, parce que tu sais, il y a des chialeux dont tu peux te débarrasser, d'autres pas. Ça se peut que tu travailles avec un collègue qui est chialeux puis tu es obligé de faire équipe avec lui. Tu ne l'as pas choisi, mais il est là. Non, mais c'est simple de dire « écoute-les plus », mais ça se peut que tu sois obligé. Tu
n'as pas le choix, bon, mais oui.
La première chose, c'est la phrase mentale que je vais te proposer. Il n'y a rien de magique. Là. S'il y avait une baguette magique, je serais riche. Mais ça ne m'appartient pas. Un parapluie émotionnel, ça se crée à travers des phrases qu'on va se répéter. Ça ne m'appartient pas. Quand il te parle, là, moi, des fois, quand je suis devant un chialeux, j'en peux plus, là, je me répète ça. Ça ne m'appartient pas. J'embarque pas là-dedans. Ça ne m'appartient pas. On dirait que ça fait comme une cloison invisible autour de moi. Ça ne règle pas tout, là, je vous le dis. Il n'y a rien de... Mais ça m'aide à... C'est comme si je mettais une distance entre ce qu'il dit, puis moi, ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. J'embarque pas là-dedans. Tu sais, c'est comme si tout le long, je me parlais.
C'est parce qu'on aurait le goût de les convaincre aussi, des fois, de dire, ben voyons, tu vois,
moi, des fois, j'ai
ça négativement.
Mais
c'est pas
regarde,
ça que je cherche, eux autres. Ben, c'est ça. Fait que là, tu perds ton temps un peu.
Tu perds ton temps, puis si tu veux t'en sortir, le brouillard est meilleur. Le brouillard, c'est quelque chose qui ne répond pas à ce qu'il est en train de te dire. C'est, au fond, des réponses de politiciens. Mettons qu'il est en train de te dire, « Ah, je suis tellement écœurée, mon auto, parce qu'il chiale sur tout. Mon auto marche pas encore, tu sais, à tous les matins, il dit ça. Mon auto, le trafic, je t'aboute, etc. » Ah, écoute, j'ai envie de te souhaiter bonne journée. Non, mais